Bonsoir et bienvenue dans Ondes Noires, l'émission polar la plus rock de la bande FM.
Bonsoir Jacques.
Bonsoir Corinne, bonsoir à tous.
Eh bien, en cette émission de fin de printemps, début d'été, on va continuer à évoquer les romans qui sont plutôt sortis en début d'année, en février-mars. Voyez, en gros, un peu juste avant le 16 mars ou juste après le 16 mars. J'espère que vous avez déjà pu faire un petit tour dans votre libraire, chez votre libraire préféré, et commander ou trouver de bons bouquins. Mais voilà, on vous donne encore quelques conseils et n'hésitez pas à les demander. Ils sont en commande, ils sont disponibles et en 2-3 jours, on les a facilement. Donc, comme je vous l'ai dit, des romans d'il y a quelques mois. Et pour vous raconter toute l'histoire, j'ai entamé la lecture du dernier roman de Sébastien Gendron dans les premiers jours du confinement, en plein dans la crise Covid. Vous avez compris. Ce roman, qui s'appelle Fin de siècle, paru à la série noire, Gallimard, hein, la série noire de Gallimard, rappelons-le, est donc sorti en février 2020. Je me répète, c'est certainement la pire période de février à avril 2020 qui eut un roman comme date de parution. Mais même si Sébastien Gendron est très taquin, gageons qu'il n'en est pas responsable. Je parle évidemment de la date de parution et pas de l'épidémie de coronavirus. Je crois que son imagination la plus débordante aurait eu vraiment du mal à imaginer le scénario catastrophe qu'on vient de vivre.
Mais l'histoire que raconte Sébastien Gendron comme scénario catastrophe, c'est pas mal non plus.
Oui, tu as raison. Ici, ce n'est pas un être microscopique qui menace la planète, mais un macroscopique. C'est un géant des mers. Le mégalodon, ça te dit quelque chose, Jacques ?
Oui, parce que j'ai lu quelques échanges de Sébastien Gendron sur Facebook, donc oui, maintenant je sais ce que c'est, oui.
Bon, alors, je pense que la majorité de nos auditeurs ne savent pas. Le mégalodon, c'est une espèce éteinte de requin qui a hanté les mers du globe entre moins 24, moins 25 millions d'années, mais qui a complètement disparu il y a plus de 3 millions d'années. Imaginez, 10 fois plus gros que n'importe lequel des gros requins actuels, énorme, avec plein de rangées dedans. Enfin, encore plus de rangées dedans que ceux qu'on connaît maintenant. C'est donc des monstres capables d'anéantir les coques de bateaux les plus solides, de massacrer quelques dizaines de gens en même temps, mais c'est juste comme à Péricube, avant de s'attaquer à des foules plus compactes après. Bref, plus aucune mer, plus aucun océan n'est fréquentable. La pêche, il n'y en a plus. Des êtres vivants dans la mer, il n'y en a plus. Ces goinfres, ils ont tout bouffé. On a, comment on pourrait dire, une espèce de confinement de terre, en quelque sorte, puisque plus personne peut s'aventurer en bord de plage ou évidemment encore plus sur la mer. Et bien sûr, cette réapparition de l'espèce, c'est juste un avatar des grandes crises écologiques. Sébastien Gendron manie ici savamment la métaphore et la parabole.
Et bien sûr, les humains vont trouver une parade, une solution.
Ben bien sûr. Et c'est là que le roman devient une belle critique sociale. Un inventeur a créé des herses, vous savez, ces gros chevaux de frise, mais là, qui ferment la Méditerranée. Donc l'un d'un côté, l'autre du côté du détroit de Gibraltar. Mais ce dispositif, ça a coûté des millions, voire des milliards. Ça n'a pu être créé qu'avec beaucoup d'argent. Donc en gros, les plus riches de la planète. Et de fine, maintenant, le tour de la Méditerranée, les bords de la mer, c'est maintenant privatisé par en gros les plus riches, les milliardaires, qui paient grassement une société de surveillance pour veiller les deux barrières qui empêchent les mégalodons de venir en Méditerranée et qui font donc un petit havre de paix pour ces milliardaires. Les autres, les pauvres, bien sûr, ils peuvent crever. Bon, c'est pas comme si les gens aisés, très aisés en mars, n'avaient rapidement rejoint leur maison de campagne et leur immense jardin afin de pérorer tranquillement sur le très difficilement confinement de la plèbe. Mais revenons au roman. Sébastien Gendron nous a toujours beaucoup fait rire, grâce à ses histoires hallucinées. Alors citons par exemple un roman qui nous avait fait beaucoup rire, Mort à Denise, bel épisode de la série du Poulpe, ou celui qui m'avait fait le plus rire, je pense, c'est Quelque chose pour le week-end.
Et donc, Sébastien Gendron semble aimer les gros animaux disparus, puisqu'il y avait les pingouins géants qui n'existaient plus, qui reviennent, dans quelque chose pour le week-end.
Oui, voilà, il y avait déjà des...
Et donc là, un mégalodon qui n'existe plus, mais qui revient quand même.
Oui, des dizaines et des centaines de mégalodons. Oui, il a une appétence pour les grosses bêtes, ça c'est sûr. Les pingouins, je rappelle qu'ils étaient en plus cocaïnomanes. Et dans ces romans, c'était le côté comique, le côté trublion de l'écrivain qu'on appréciait. Ici, il y a vraiment des scènes déjantées, des clins d'œil drôles et subtils, ou pas. Mais il y a surtout un discours de fond très solide, qui marque, qui touche d'autant plus qu'il utilise cet humour décapant. Vous allez donc adorer l'histoire de Armel et Jonathan Kessler. Oui, dès que vous lisez ces mots, ceux qui ont un peu plus de 30 ans, ça ressemble un peu au héros d'un feuilleton un peu débile. L'amour du risque, du milliardaire oisif, très oisif. Jonathan se descend des litres de Bloody Mary, mais des litres, hein. Et il y a plus de vodka que de
jus de tomate.
Que de jus de tomate, c'est ça.
Bah c'est comme ça que ça se fait. Hein.
Ah bon, d'accord. Mais moi, j'aime pas ça. Tandis que Armel bronze. Et puis, Jonathan, il a un passe-temps très étonnant. Il a fondé dans le monde le mouvement Bast Art. B-A-S-T apostrophe art. Et c'est un amateur d'art. Il peut se payer absolument n'importe quel chef-d'œuvre. Et il le traite à sa façon. Alors, petit extrait. Jonathan a honte, terriblement. Il se sent même enduit de honte. S'il pousse un peu plus loin, il s'imagine fourré à la honte. Et ça lui fait un bien fou de se faire envahir ainsi par quelque chose qui lui procure autant de douleur, tout en le plongeant dans un état de stupeur glacée, là, debout, dans son salon, les pans du peignoir à demi ouverts, face à « Relieve yourself ». Il y revient souvent à cette toile. Elle est d'ailleurs faite pour ça, il lui semble. Depuis le temps qu'elle est là, recouvrant de sa noirceur totale le manteau de la cheminée. Et c'est lui qui l'a faite. Mais là n'est pas la question pour l'heure. Il se détourne de l'œuvre fondatrice du mouvement Bast Art. Armel vient d'entrer dans la pièce. Il a entendu claquer la semelle de ses tongs sur les dalles de schiste. « Mais pourquoi est-ce que tu fuis comme ça ? Ce que tu m'as dit il y a un instant, ma chérie, ça m'a déchiré le cœur. Tu n'as pas idée comme tu m'as fait mal, mon Dieu !» Jonathan se plaque une main sur la bouche et se détourne brusquement pour cacher les larmes qui lui montent aux yeux. Donc là, on dirait plutôt un peu les feux de l'amour, hein.
Oui, oui,
si c'est... vous voyez, c'est voilà, ça, c'est totalement revendiqué, c'est hilarant. La posture est gracieuse, un rien féminine. À quelques pas de la cheminée, avec le soulage en arrière-plan, le manche en inox de la hache, flottant au-dessus de sa tête comme une menace design, le corps débranché, bassin en avant, buste retourné, main droite posée à la taille, l'autre main soutenant le menton, et les plis soyeux du peignoir en hermine synthétique comme un drapé de Giovanni Strazza. Voilà, ça c'est le florilège, un petit florilège. Il ose tout et il a bien raison. Donc comme je disais, il y a ce couple dont vous allez suivre les aventures. Et puis, vous allez croiser des flics peu orthodoxes, voire totalement barrés, d'un peu toutes les provenances, des cambrioleurs très étranges. Chacun des personnages étant savamment mis en scène pour apporter de l'eau au moulin, enfin, en gros, au propos de Sébastien Gendreau. Levez un peu les yeux de votre demi, regardez ce que vous laissez faire au monde. Et puis... si on pouvait arrêter un peu de bader, de baver devant les richesses de certains, leur pouvoir, leur trafic, ce serait pas mal non plus. Bref, fin de siècle, c'est une réflexion très intéressante sur le monde d'aujourd'hui, emballée dans une immense pochette surprise, avec plein de pétards à l'intérieur, peut-être même un coussin péteur, mais délicat le pet quand même, hein, n'est-ce pas ? Pour une fin de siècle qui... Je ne voudrais pas spoiler l'histoire, mais qui pourrait bien être une fin du monde. Mais finalement, est-ce si grave, la fin du monde, la fin d'être humain ? Voilà, je vous laisse découvrir l'histoire et les propos sérieux ou non de Sébastien Gendreau. Ça s'appelle « Fin de siècle », série noire, Gallimard. À la fin, il y a une playlist. Et dans cette playlist, Jacques ?
Eh bien, il y a « Divine Comédie ». Qui donne le titre, le groupe Divine Comedy, que Sébastien Gendreau aime bien.
Beaucoup même, je pense.
Même beaucoup, et puisqu'en fait, il avait déjà emprunté le titre du précédent à une chanson de Divine Comedy. Là, il emprunte le titre de son fin de siècle à un album de Divine Comedy qui s'appelle donc Fin de siècle, en français dans le texte. Et nous allons écouter un extrait de l'album. Nous avons choisi assez judicieusement, je dois l'avouer, le titre numéro 9 qui s'appelle Before the Flood, Divine Comedy.
Another worried little citizen of this modern-day Pompeii, waiting for the meltdown, the showdown, the great American close down. When that fault line that runs right through society's fabric finally snaps, and the whole damn thing starts unraveling. Why watch the sports channel when you can watch CNN? Ladies and gentlemen, the greatest race in history. The race to end all races. In fact, the race to end history. In lane one, the San Andreas Fault. In lane two, global recession. In three, El Nino. In four, chemical war. Lane five, interracial conflict. Lane six, autoimmune deficiency syndrome. On your marks, get set, wait for it.
Pour cette, le roman dont tu vas nous parler.
Oui, pour la cinquième enquête du détective privé Makana, qui se passe donc au Caire. C'est un roman de Parker Bilal qui s'appelle La Cité des Chacals et qui est traduit de l'anglais par son traducteur attitré Gérard de Chergé. Et il est paru, eh ben, comme le roman de Sébastien Gendron, à la série noire de Gallimard.
Donc, tu parles du détective privé Makana, mais tout le monde ne le connaît pas. Toi, tu le fréquentes depuis un certain temps. Tu nous en dis un peu plus ?
Oui, alors en fait, oui, ceux qui n'auraient pas écouté les précédentes émissions...
Il y en a très peu, mais
au cas où. Makana, c'est un détective privé donc qui exerce au Caire, qui se situe en Égypte, pour ceux qui n'auraient pas suivi les cours d'histoire et de géographie. C'est un ancien flic soudanais qui a eu des démêlés avec les autorités de son pays, qui ne sont pas des autorités fort sympathiques, et qui a donc émigré dans le pays voisin, un peu au nord, donc, qui est l'Égypte. Sa femme et sa fille ont été assassinées peu avant son départ, ce qui fait qu'il n'est quand même pas dans une grande forme psychologique. Il vit désormais sur une sorte de péniche délabrée, et il enquête, c'est un détective privé, donc c'est normal, avec ou souvent contre la police officielle, qui le considère comme un étranger dérangeant. Chacune de ces aventures, enquêtes, se déroule à une époque différente. La première était en 1981, et puis au fur et à mesure, ça a augmenté dans le temps. La précédente, c'était en 2002, là, on est en 2005. Et on découvre ainsi la vie en Égypte, l'évolution politique, l'omnipotence de Moubarak, la pression des religieux, et tous les divers petits côtés de la vie qui rôde.
Et tu parlais au départ donc d'une double enquête. Quelles sont ces deux enquêtes ?
Alors la première enquête, c'est une enquête officielle pour laquelle il est mandaté par un restaurateur assez fameux, Osam Hafiz, qui est le propriétaire des Jardins de Verdi, un restaurant de pâtes italiennes.
Oui, le Jardin de Verdi.
Voilà, on se doutait bien. Son fils, enfin le fils du proprio, donc, a disparu. Il est un étudiant et il a disparu depuis plus de 3 semaines, et ça commence à inquiéter la famille. Dans l'autre enquête qu'il mène, cette fois-ci pour son propre compte, Makana va essayer de retrouver à qui appartient la tête, que l'on a retrouvée sans le tronc, dans un filet de pêcheurs, non loin de la péniche dans laquelle il vit. Des scarifications semblent indiquer que le disparu, est un jeune Soudanais du Sud. Ce n'est pas vraiment la fibre patriotique qui va motiver Makana, même si donc le mort semble être un Soudanais comme lui, mais c'est surtout son désir de savoir et la certitude qu'il a que la police officielle ne fera strictement rien pour retrouver les assassins du jeune homme, ni même de savoir qui il est vraiment. Surtout que, en fait, la politique autoritaire de son ancien pays a provoqué une immigration massive de ses compatriotes qui fuient la guerre civile et qui vivent désormais en grand nombre parqués sur une des places du Caire, surveillés par la police et pris en charge un peu comme ils peuvent par le HCR.
Et ça ne doit pas arranger en ces moments de coronavirus.
Non, mais ils sont partis depuis 2005.
Et ces deux enquêtes, donc, la disparition du fils et cette tête retrouvée, vont se rejoindre, les fils vont se croiser, comme on dit.
Je ne peux absolument rien révéler dans cette chronique, mais nos auditeurs, qui sont des lecteurs avertis, comprendront de même.
Bon, alors si tu peux pas nous raconter les enquêtes, tu peux quand même nous raconter comment il fait le détective pour mener ses enquêtes.
Oui, parce que Makana, c'est pas du tout un détective façon Hercule Poirot. Ses investigations ne sont pas faites dans les règles de l'art, mais alors pas du tout. Il a pas mal d'intuition, il sait poser les bonnes questions à qui il faut. En fait, ça serait plutôt un Marlowe oriental. Makana est toujours en train de déambuler dans la ville, à la façon du héros de Chandler. Mais un Marlowe, quand même, qui aurait le Mektoub. Même s'il lutte constamment contre ce fatalisme. Et quand il ne se déplace pas à pied, il est véhiculé par Simbad. Simbad, c'est un chauffeur de taxi.
Le marin, ah non, pardon.
Non, c'est un chauffeur de taxi qui apparaît dès le premier roman et qui prend de plus en plus d'importance. Et qui conduit son vieux taxi Datsun, qui est de plus en plus délabré, imaginez, depuis 81, on est en 2005, mais qui transporte le détective à peu près toujours là où il veut. Comme Marlowe, Makana est un incorruptible, mais il n'est pas forcément à cheval sur les préceptes de la loi. Il la respecte quand il faut, mais s'il peut la contourner, ben, ça se fait. Il accepte aussi, Makana, l'aide de la police, mais il n'ira jamais collaborer avec eux de plein gré.
Pas beaucoup de femmes dans ces romans ? Peut-être une femme fatale quand même ? Non, je sais pas, dans un polar.
Ouais, puis on parle de Marlowe, évidemment, on imagine tout de suite une femme fatale. Eh bien, dans celui-là, pas vraiment. Bon, il va y avoir quand même deux femmes qui vont jouer un grand rôle. une Américaine qui est d'une secte évangéliste, venue apporter de l'aide aux miséreux, ainsi que la bonne parole, bien évidemment, et bien d'autres choses que vous découvrirez, parce que j'imagine que vous allez bientôt acquérir ce livre dans votre librairie. L'autre femme, c'est la médecin légiste adjointe, qui va beaucoup aider Makana, et peut-être plus si affinité. Enfin bon, ça c'est pareil, je ne peux pas trop vous en révéler. Plus. En fait, c'est la légiste en chef. Mais comme une femme ne saurait exercer une telle autorité dans ce pays, déjà dans le nôtre, c'est pas si évident d'obéir à une femme dans les services hospitaliers, j'imaginais bien que là-bas et à cette époque, ça devait pas être tellement mieux. Donc il y a un chef, mais en fait, on le voit jamais, c'est elle qui fait tout. De roman en roman, Parker Bilal a vraiment affiné ses personnages et son écriture. Et surtout, il a musclé ses intrigues qui tiennent vraiment bien la route désormais. Fini les indices parachutés qui arrivaient au bon moment dans les deux premiers. Là maintenant, c'est vraiment très très bien ciselé. Et pour conclure, il y a dans ces romans cette vie orientale à la fois stressante et désinvolte, où quelques bons petits plats bien odorants viennent guérir pas mal de blessures.
Voilà, on rappelle peut-être le titre de ce cinquième, c'est ça? Le cinquième roman autour de Makana?
Oui, donc ça s'appelle La Cité des Chacals, donc de l'auteur c'est Parker Bilal, et le traducteur Gérard de Chergé à la Série Noire de Gallimard.
Et pour illustrer donc ce roman de Parker Bilal, que nous as-tu choisi, Jacques?
On va mettre un peu de musique arabe mais berbère, une chanson de Idir, qui nous a quittés il n'y a pas longtemps, une de ses plus belles chansons qui s'appelle Assendou, et qui est un bel hommage aux femmes berbères, aux femmes arabes et aux femmes de tous les pays en fait. Idir.
une pensée pour Idir, qui était un grand monsieur et un grand chanteur. Eh bien, Jacques vient de vous emmener en Égypte. Nous allons rester au Moyen-Orient, dans un pays frontalier d'ailleurs, Israël. Les romans noirs, les polars, sont pas légion qui évoquent ce territoire, si complexe d'ailleurs. Et là, ce n'est pas un roman dont je vais vous parler, mais deux. Le premier est écrit par une journaliste, elle est directrice, enfin co-directrice de la rédaction de Libération. Elle s'appelle Alexandra Schwarzbrot, elle vit en France. Elle donne une vision bien pessimiste de l'État juif dans quelques années. Demain, en fait, comme on le dit maintenant, une dystopie. C'est un roman sorti en février chez Payot Rivage, dans la collection Rivage Noir, et son titre, c'est « Les Lumières de Tel Aviv ».
Et le deuxième roman est écrit par un Israélien, donc c'est ça ?
Oui, le deuxième, c'est Dror Michani, qui habite en Israël, qui enseigne l'histoire du roman policier là-bas. Et son dernier roman s'appelle « Une, deux, trois ». Il est paru à la Série Noire en février. Et curieusement, Dror Michani, c'est celui qui habite en Israël, mais en gros, c'est dans ce roman que l'on va le moins parler du pays.
Et donc, il est écrit par un Israélien en hébreu, donc tu veux peut-être nous donner le nom
du traducteur. Tout à fait, bien sûr. Il est traduit de l'hébreu par Laurent Sandrovitch.
J'espère que Alexandra Schwarzbrot écrit en français.
Voilà, Alexandra Schwarzbrot écrit et vit en France depuis toujours, en fait.
Donc, on va revenir à Dror Michani. Il s'est fait connaître en France, si je m'abuse, par son personnage de Avraham. Qui a au moins trois enquêtes déjà, ou trois ou
oui,
quatre.
Oui, alors, drôle de nom, hein, prénom Avraham, nom Avraham, flic.
Et donc c'est la suite.
Eh bien non, c'est pas du tout la suite. Avraham, c'est le flic récurrent de Dror Michani, un des personnages qui plaît d'ailleurs beaucoup en Europe. Il y a des gros tirages. Mais là, il nous convoque à trois destins de femmes. Et son personnage d'Avraham ne peut donc plus, comme ça nous plaisait dans les précédents romans, ne peut plus se moquer de ses collègues, auteurs et scénaristes. Son flic disait toujours qu'il y a une faille dans tous les récits policiers. Du coup, là, bah, il sort des personnages de flic, et ce n'est pas un récit qui nous fait, mais trois. Trois parties, donc. Et on va commencer par découvrir la vie solitaire de Orna, divorcée depuis peu, et elle s'engage dans une relation avec Gil, qu'elle a rencontré sur Internet. Orna est fragile, très fragile. Elle essaie de faire face pour son fils Erhan, elle trime comme prof, apparemment les payes ne sont pas énormes et c'est pas évident de survivre. Gil peut être sa planche de salut ou sa perte. Et Orna s'enfonce au fur et à mesure dans la détresse, Surtout quand le père d'Eran, qui l'a quitté, veut récupérer son fils, et donc elle accepte, pour se sortir de ce marasme, un week-end avec Gil à l'étranger.
Rideau d'Orna, on passe à Emilia.
Oui, sans transition. Je vous raconte pas la fin, parce que sinon, c'est pas la peine. Même, bon, allez, il faut bien le dire, la quatrième de couverture, elle vous le dit un peu. Sans transition, Emilia, tout aussi fragile, tout aussi vulnérable, destin totalement différent. C'est une émigrée lettonne, elle sait à peine parler l'hébreu. Tout allait bien, elle s'occupait d'une vieille personne, Naoum, elle vivait chez eux, mais celui-ci vient de décéder, elle doit déménager, faut trouver un nouveau travail, un nouvel endroit pour dormir. En gros, Emilia devient une proie, en perte de repères, et ne pas maîtriser la langue dans un pays, c'est juste être à la merci de chacun. Mais la veuve de Naoum veut l'aider, son fils est avocat, elle l'envoie vers lui pour être régularisée. C'est ainsi qu'Emilia va rencontrer un certain Gil. Et oui, le même qu'avait rencontré Orna par Internet.
Et on arrive au numéro 3. Et là, si je ne m'abuse...
Et là, trois femmes dont les prénoms se terminent en A. Là, Gil va la rencontrer dans le bar, où elle écrit un mémoire sur le ghetto de Lodz. Elle est mariée, elle est étudiante. Elle se définit comme pondeuse. Sa petite dernière a 10 mois. Et tout de suite, le ton change. Elle semble plus sûre d'elle, Cornelia et Emilia. Elle se moque de Gil.
Orna.
Orna et Emilia, elle se moque de lui. Et il semble y avoir des rapports assez francs et massifs. Mais c'est une femme qui peut enfin lui résister. Et comme je viens de le dire, le ton change vraiment. Il semble que les cartes soient distribuées d'avance. Parce que des enquêtes sont en train de rattraper les histoires précédentes, Et enfin, les trois histoires peuvent se mêler, je dis peuvent, car on dirait que l'auteur autorise enfin les fils de ses récits de s'entrecroiser, de s'emmêler en très très fin stratège. Trois portraits de femmes donc, leur vulnérabilité, leur parcours, une narration plutôt maligne, quoique un peu malhonnête. Mais cela, c'est pour que le lecteur, ait quand même le plaisir de se retrouver dans une intrigue et qu'il y ait quand même un petit minimum de suspense.
Finalement, tu cites pas de ville, ni vraiment, ça pourrait se passer n'importe où.
Alors, il y a des particularités qui sont propres à l'État d'Israël, mais exactement, ça pourrait se passer n'importe où. Ce qui n'est pas du tout le cas du roman d'Alexandra Schwarzbach.
On passe au deuxième roman, donc.
Voilà, Les Lumières de Tel Aviv, où là, on va avoir une analyse géopolitique, sociologique, économique, très fine, pour un récit que l'on pourrait qualifier d'anticipation. Je rappelle le titre, Les Lumières de Tel Aviv, chez Rivage Noir. Sorti aussi en février, hein, je crois que je l'ai dit tout à l'heure.
Oui. Mais
voilà, les deux sont sortis en même temps. À partir d'un constat très lucide, et je pense vraiment très réaliste et fin, intelligent, de la situation complètement pourrie entre Israéliens et Palestiniens, la journaliste imagine le clivage total entre deux idées, les religieux d'un côté, les laïcs de l'autre, les Palestiniens étant voués à l'extinction, ou presque.
Et le clivage donc religieux-laïque se passe entre deux villes, Jérusalem et Tel Aviv.
Oui, on va se retrouver avec les ultra-religieux juifs à Jérusalem, protégés par un mur, les laïcs, les autres à Tel Aviv, voulant construire une utopie, un monde de paix avec peu d'armes, rappelant les premiers kibboutz. Et évidemment, entre ces deux idées, un mur infranchissable. Enfin, comme tous les murs qui séparent des êtres humains, où tout dialogue est interrompu.
Oui, le mur, il n'est pas physique, mais il est plus complexe que ça. Un roman, en fait, de la frontière.
Une frontière hermétique, étanche. Elle est géographique, mais elle est surtout et avant tout, et c'est l'intérêt d'un roman comme ça, dans les esprits, dans les fanatismes qui vont très, très loin. Enfin, il y a quand même un point de vue, le fanatisme, c'est surtout chez les ultra-orthodoxes. Mais les êtres humains, restant ce qu'ils sont, dans cette situation, Alexandra Schwarzbrot va attacher nos pas, notre lecture, à quelques personnages qui vont, d'une manière ou d'une autre, vouloir passer cette frontière, franchir la frontière, franchir le pas. D'abord, on va faire la connaissance de Haïm, à Jérusalem, c'est un de ces ultra-religieux, il a toujours suivi, j'allais dire imam, mais c'est pas du tout ça. Donc, il a toujours suivi ses
rabbins.
Voilà, ses rabbins, excusez-moi. Mais d'un coup, il pète un câble et il veut passer de l'autre côté. À l'inverse, on a du côté de Tel Aviv, Elie Bichara, un ex-flic. Il a accepté de faire le maintien de l'ordre à Tel Aviv. Il a suivi les utopistes, mais il n'a plus guère d'illusions. Lui, il doit rejoindre Jérusalem, donc passer le mur de l'autre côté, car il sait que des choses graves vont arriver. Il a ses indices. Ces indices, d'ailleurs, sont plutôt haut placés. Et puis, dans un espèce de no man's land, entre les deux mondes, on va faire la connaissance de Moussa. C'est le plus jeune. C'est un jeune Palestinien. Ses parents sont partis, sa mère. Un peu brut de décoffrage. Abandonné, complètement. Il se cache dans une grotte.
Alors, dans Dror Mishani, il y avait beaucoup de femmes, mais là, il n'y en a pas dans celui-là.
Si, autant que d'hommes. Trois magnifiques personnages de femmes, entre autres, parce qu'évidemment il y a plusieurs, il y a des personnages secondaires, mais on va faire la rencontre de Malika, toute jeune palestinienne, que va rencontrer Moussa. Et Malika, elle va être son espèce de mentor, elle va l'apaiser, elle l'éduque carrément, le sauvera-t-elle ou pas, vous le saurez. Il y a aussi Samara, côté Tel Aviv. Une forte femme, une femme bien musclée même, dans tous les sens du terme. Et la rencontre avec Raïm, ça va changer le cours de leur vie. Et puis, on en est au sixième prénom, se terminant par A, hein, parce que ceux de Dror Mishani, c'est la même chose. Et puis, il y a Anna, la femme abandonnée, par un religieux, par un ultra-religieux, qui se redécouvre, qui se souvient. Et c'est là la subtilité de ce récit. Ça va être les rencontres qui font avancer l'histoire dans un monde où l'incommunicabilité, où l'impossibilité de se rencontrer est de mise en fait. Bref, c'est vraiment un roman très intéressant qui donne à réfléchir, qui décrit le contexte dans ce pays du Moyen-Orient, je dirais sans manichéisme, mais en montrant bien quand même les responsabilités de chacun. En même temps, il y a cette toile de fond profondément politique, mais c'est aussi un roman profondément humaniste, intime, qui est au plus près des personnages. Et je vais vous faire une conclusion un peu naïve. Dans toute cette noirceur, ça fait du bien de penser que des histoires d'amour, quelques histoires d'amour, ça peut... Bon, allez, je ne vais pas dire que ça peut sauver le monde, mais ça peut au moins sauver quelques-uns d'entre nous. Voilà, on en restera là. Je vous laisse vous découvrir ces très très beaux personnages qu'a inventé Alexandra Schwarzbrod. Ils sont très intéressants, comme d'ailleurs les trois femmes de Dror Michani. Et on va écouter jazz, pas jazz ? À la frontière du jazz.
À la frontière du jazz, puisqu'on est en Israël, on va écouter des musiciens israéliens. Les musiciens Davishai Cohen, le trompettiste, parce que je rappelle qu'il y a aussi un contrebassiste. Un extrait du nouvel album, c'est un nouveau projet d'Avishai Cohen, qui s'appelle Big Vicious. Le morceau s'appelle Hidden Chamber. Le disque est paru en mars chez ECM, enfin en mars pendant le confinement, donc c'est un peu compliqué pour lui. C'est un genre de jazz psychédélique, mais c'est de toute beauté. Avishai Cohen. cette belle musique. Pour finir l'émission, un roman d'aventure de Alex Taylor. Le roman s'appelle « Le sang ne suffit pas ». Il est paru chez Gallmeister et il est traduit par Anatole Ponce-Remeau.
Gallmeister, on sent un roman qui pourrait se passer aux États-Unis, non ?
Oui, et en fait, non, disons en Amérique, parce que nous sommes en 1748, avant 1776 et la déclaration d'indépendance, donc c'est dans une colonie britannique. L'action se déroule dans les montagnes de ce qui est aujourd'hui la Virginie orientale ou le Kentucky.
Virginie orientale ?
Occidentale, pardon.
Ah, il me semblait bien.
Alors j'ai dit roman d'aventure, mais ça pourrait être une espèce de western sans cow-boy. Mais par contre, il y a des Indiens, pas très sympas, les Shawnees. Et il y a des Blancs, donc les colons, des Français, des Anglais, des Allemands, pas très sympas non plus. Et puis il y aura des ours, particulièrement une ours, des loups, un chien, des chevaux, la montagne, la forêt, des baraques en planches et la neige, car on est en hiver.
Oh, t'as pas dit si les animaux, ils étaient sympas ou pas ?
Bon,
pas
c'est
très sympa, non ?
Pas très sympa, mais bon, les animaux sont ni sympas ni pas sympas.
J'ai dit que Gallmeister, c'était synonyme d'États-Unis. C'est en général des romans de nature writing ?
Oui, totalement, mais du nature writing assez musclé. Ce n'est pas, disons, de la pêche à la truite le long d'une rivière paisible dans le Montana. Ceci dit, c'est pas toujours paisible dans le Montana. Ici, c'est plutôt violent. Le roman aurait pu s'appeler Into the Wild. La nature est rude, sauvage, parfois brutale, mais les hommes le sont encore bien plus quand il s'agit simplement de survivre, ou que l'appât du gain prend la mesure sur la raison. L'homme, la femme aussi, peuvent devenir totalement barbares.
Et c'est pour ça que l'homme est la créature la plus cruelle de la Terre.
Alors, pour vous donner une idée, cela commence comme ça. Dans le gris vaporeux de l'aube, une vieille ours descendit de la montagne et tua le cheval de l'Allemand mort. La pouliche qui endurait l'hiver dans une remise délabrée poussa un seul cri avant d'être réduite au silence par un puissant coup de patte. La colère de l'ours s'explique car Rettle, l'un des personnages principaux du roman, vient de faire cuire et bouffer son ourson abandonné. Peu après, Rettle et son chien vont chercher à s'abriter donc dans la cahute. Il va tenter de rentrer, un homme veut l'empêcher, il la bat. Et dans la cahute, il découvre une femme enceinte nommée Della.
La pauvre. Qu'est-ce qui va donc arriver à cette femme ? Un futur bébé, et puis donc il y a Rettle et son chien.
Eh bien, pour commencer, ils vont simplement essayer de survivre dans la cahute. Il ne fait pas chaud, il fait même très froid. Il y a quelques bûches, il n'y a guère à manger, quelques poules faméliques. Puis le bébé va naître, et Rettle va apprendre que ce bébé est promis à Blacktooth. Blacktooth, c'est le chef des Indiens Shawnees qui veut ce bébé en échange d'une paix relative pour le village de colons, non loin du camp indien, d'où vient la femme. Mais Della n'est pas franchement d'accord pour céder son bébé, d'où sa fuite dans les montagnes, pourtant largement inhospitalières.
Elle a des bonnes raisons.
Elle a des très bonnes raisons. Donc entre les deux hommes qui se sont chargés depuis le village de la ramener, et le trio donc
Della, le bébé et Rêveur, et il y a le chien.
Et le chien aussi, oui. Il va se dérouler donc un jeu de piste assez sanglant, avec des renversements d'alliance, des rebondissements plutôt inattendus. On ira au cours du roman aussi bien se mêler de la vie des colons dans ce village en sursis, et on ira aussi faire un tour dans le campement des Shawnees. On rencontrera quelques personnages assez originaux, qu'on pourrait qualifier de haut en couleur, de ceux qu'on n'oublie pas, comme le trafiquant français qui s'appelle Simon Cheese. Oui, c'est assez amusant, mais fromage, parce que...
Voilà. Ah oui, il n'y a pas la baguette, tout va
non.
Bien.
Il y a le docteur Integer au village, et il y a aussi l'aumônier. L'Amérique n'existe pas encore, mais les curés sont déjà là pour dire la loi de Dieu.
Ça ne va pas s'arranger dans les siècles qui suivront.
C'est sûr. Un roman d'aventure, je l'ai déjà dit, je le répète, un roman magnifiquement écrit, dans une langue parfois un peu ancienne, mais bon, l'action se situe en 1748, je le rappelle. Et aussi dans une langue qui se laisse aller souvent à la poésie, quand l'auteur parle d'amour, d'amour perdu, celui de Rettle par exemple, et surtout quand il évoque la nature. J'imagine qu'Anatole Ponce, le traducteur, a dû sacrément bosser pour rendre en français ce rythme, les respirations du texte, ou parfois pour raconter des scènes de bataille ou de lutte, comme si le lecteur en était un des protagonistes.
On va peut-être donc, tu vas évidemment nous lire un extrait en français, non en anglais, mais...
Non, je vais lire un extrait en français, surtout de la poésie de la montagne et de la nature. Une lourde hache de froid tournoya dans le noir, et des pics glacés vinrent marteler la terre avec fracas. Les bois se mirent à grincer, à chuinter sous les coups de burin du grésil. Chaque grain de glace mordait la chair, il rongeait les chausses et les capes, et bientôt, un voile lustré se forma au bout des bottes de Elijah. Elijah, c'est un des deux poursuivants.
Et là, c'est un morceau qui est presque à la fin du récit. J'espère que tu ne relates pas tout.
Je ne spoil absolument pas, comme on dit en français. À l'aube, l'enfant à bout de force s'est tu. Mais la forêt n'était pas silencieuse pour autant. La glace était tombée sans discontinuer toute la nuit, si bien que chaque arbre, chaque pierre et le sol partout alentour étaient couverts de 2 pouces d'un lourd verglas scintillant. La glace camouflait la piste et dessinait des langues brillantes sur le versant de la montagne. Elle agrippait les branches éreintées des noisetiers et des ronciers qui avaient pris l'aspect d'un métal dément, craquant, chuintant dans le vent. La neige avait déposé une nappe d'argent nette et lisse sur chaque surface, et dans l'aube bourgeonnant, le givre faisait luire des particules bourgeonnantes de froid. Je n'ai pas spoilé l'intrigue, c'est presque la fin. Vous avez compris, on est dans la montagne, dans la forêt, et il ne fait pas bien chaud. Je rappelle, « Le sang ne suffit pas » de Alex Taylor, paru aux éditions Gallmeister, et traduit vraiment super bien par l'américain, non, traduit de l'américain par Anatole Ponce-Renaud.
Voilà, et bien c'est la fin de notre émission, un petit peu plus longue que d'habitude, c'est bien, on a pu vous parler des romans qui nous ont attirés, dont on avait envie de partager nos enthousiasmes, donc on va vous dire traditionnellement, chacun dans son coin avec un bon bouquin.
Ou plusieurs, à bientôt.
À bientôt, au revoir.